Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Avec nous aussi, Élisée Nkwatine depuis Boïkan au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc d'ici là, Thierry Kamboundi, notre correspondant à Kinshasa, qui est présentement à New York, ici donc aux États-Unis, va nous rejoindre. Nous commençons avec les matchs aller du dernier tour des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020. Dans la zone Ouest A, le Sénégal a battu la Guinée 1-0 au stade La Dior de Thiès. Une petite avance pour les Lions locaux qui ont la tête déjà tournée vers le match retour à Conakry. Serigne Saliou Dia, coach du Sénégal.
Quand on voit l'actu de l'équipe de Guinée aujourd'hui, avec un bloc très médian, un bloc très compact qui a refusé de jouer, je pense que maintenant à domicile, ce sera heure de faire le jeu, ce sera heure de sortir, et ça nous donnera des espaces, ça nous permettra de mettre en exergue un peu nos flèches sur le plan offensif, et je pense par rapport à ça, on peut se faire pour une suite meilleure. Et je pense nous, on a appris quelque part à voyager, on a fait 3 matchs, on a gagné 2 à l'extérieur, que ce soit Côte d'Ivoire, Gambie, je pense sur le plan psychologique, on est prêt, je pense qu'on pourra seulement être dominé sur le plan psychologique, et par rapport à ça, nous, je pense qu'on a du répondant, on pourra prévaloir nos forces.
Serigne Saliou Dia, entraîneur des Lions locaux du Sénégal. Même état d'esprit en face, selon le coach guinéen Kanfouri Lapé Bangoura.
C'est un bon résultat, mais un résultat piège aussi. C'est de savoir psychologiquement se préparer pour le match retour afin de profiter du résultat qu'on a obtenu. Si c'est vrai que ça a été un match très difficile avec un effectif que j'ai eu en moins de 3 semaines. J'ai pas eu de match amicaux, pas de championnat dans le pays. Après, physiquement, on n'était pas tellement à point. Nous nous sommes créés des occasions, mais peut-être que comme les équipes vont évoluer au fil du temps, mais le match que j'ai vu là, au match retour, nous pourrons mieux faire, nous pourrons nous qualifié, je pense, en difficulté.
Lapé Bangoura, sélectionneur du Sili National local, au micro d'Amédine Nassi. Alors, Amdine, cette victoire sénégalaise, cette coup de victoire, a tardé à se dessiner.
Oui, cette victoire a tardé à se dessiner. C'est parce que tout simplement, le Sénégal avait en face une très bonne équipe guinéenne, une équipe qu'on considère comme la bête noire du Sénégal, puisque si le Sénégal a raté les 2 dernières éditions du CHAN, c'est à cause de cette équipe guinéenne qui a éliminé à 2 reprises cette équipe sénégalaise. C'est pourquoi le match a été très difficile. Les Guinéens n'ont effectué le déplacement. C'était pour empêcher au Sénégal de développer le jeu. Ils ont mis en difficulté cette équipe nationale du Sénégal. D'ailleurs, la première occasion France a été créée par cette équipe guinéenne, c'est par l'intermédiaire de son attaquant Mamadou Ba Bangoura. Mais ce dernier a vu sa frappe repoussée par le poteau. On jouait la 40e minute, les deux équipes, donc on rejouait les vestiaires sur ce score de 0 but partout. Mais comme le Sénégal voulait coûte que coûte remporter ce match, le staff technique guidé par Serigne Saliou Dia a effectué sur le champ des changements. Il a fait entrer Youssouf Badje Ousseynou Nounia à la place de Limamou Gueye. Limamou Gueye, c'est l'attaquant de Génération Foot qui a permis à Génération Foot de battre le Zamalek qui avait réalisé un doublé. Donc Serigne Saliou avait quand même une ossature composée des joueurs de Génération Foot, parce que comme la Guinée, le Sénégal aussi, son championnat n'a pas encore démarré. Les Sénégalais ont quand même mis le pied sur l'accélérateur et à force d'attaquer, ils finiront quand même par marquer ce but par Hassan Mouit, un exploit individuel de Hassan Mouit qui a mis 2 adversaires dans le vent pour frapper à l'entrée des surfaces de réparation et il a battu le gardien Moussa Camara qui a été l'homme du match. Et comme vous l'avez dit, c'est une courte mais précieuse avantage pour les Lions locaux du Sénégal qui vont essayer de défendre quand même ce but. Mais comme l'a dit l'entraîneur guinéen, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est un résultat à pièce parce que 1-0, c'est pas un résultat tellement favorable pour une équipe qui va se déplacer. En tout cas, moi, je m'attends à un match de tour extrêmement difficile, Yacouba.
On le verra donc à la fin de ce mois et si vous voulez, en mi-octobre. De son côté, le Mali a ramené le nul de son déplacement en Mauritanie 0-0. Alors, Élisée, la difficulté face à l'équipe mauritanienne, c'est que c'est pratiquement la même formation qui évolue, que ce soit avec les A ou les locaux. Du coup, ce sont des jeunes qui se connaissent très bien.
Bien évidemment, puisqu'il y a un travail qui a commencé déjà du côté de la Mauritanie, et surtout avec le championnat. C'est vrai, cette n'a pas encore monté grand-chose sur le continent avec les clubs qui sont pas encore arrivés à se qualifier pour la phase finale, ne serait-ce que la Ligue des Champions ou encore la Coupe de la CAF. Mais au niveau de la sélection nationale, il y a un travail qui a été abattu avec cette première participation au championnat d'Afrique des Nations. On se rappelle bien Afrique du Sud, et bien depuis ce temps, et bien le football mauritanien continue son petit bonhomme de chemin. En face, le Mali, qui a connu une longue crise, qui a secoué le football, c'est vrai, puisque le championnat a été arrêté pendant 2 ans, et que c'est maintenant que ce championnat a repris, un championnat qui est à sa 5e journée, avec notamment 2 grandes formations qu'on connaît bien sûr dans ce pays, le Stade malien, et bien évidemment le Djoliba, s'est qualifié pour le second tour de la Coupe de la CAF. Donc à ce niveau, eh bien, les Mauritaniens connaissent bien évidemment ces Maliens puisque ces deux équipes s'affrontent, après se sont déjà affrontées à plusieurs reprises. Une fois encore, les Maliens ont déjà cet avantage là, c'est d'aller chercher le nul 0-0 du côté de Nouakchott. Donc le travail le plus difficile reste maintenant à domicile, mais les Maliens ne doivent pas encaisser, sinon ils seront simplement éliminés.
Merci Élisée Mpatine, toujours dans la zone ouest. Grosse performance pour le Togo qui a pris une option sur la qualification à Venabou du Nigeria, battu 4-1 à Lomé. Alors Jules, les épervieux locaux, togolais on va dire, ont réalisé là un sacré coup face au vice-champion d'Afrique en titre qui est le Nigeria.
Oui, bien sûr, c'est une performance pratiquement inattendue, mais il faut dire que quand il s'agit du Chan, on a affaire à des joueurs locaux et donc finalement il y a toujours l'effet de surprise puisque les crues ne se ressemblent pas, mais il serait de bon ton de reconnaître que avec cette performance, peut-être il y a quelque chose derrière la performance, c'est-à-dire que il y a une génération qui est décidée à faire un peu la différence et à remonter le Togo qui, au niveau de l'équipe Fanion, tend à piétiner depuis quelques années.
Le Burkina Faso est allé lui aussi battre le Ghana 1-0 à Kumasi, un but inscrit dans les arrêts de jeu. Belle performance également pour le Niger qui a dominé la Côte d'Ivoire 2-0. Dans la zone nord, 0-0 dans le derby maghrébin entre l'Algérie et le Maroc, tenant du titre. Un match d'hommes selon le coach des Fenech locaux, Ludovic Batelli, qu'on écoute.
C'est important, je pense, de ne pas prendre de but, effectivement, parce que dans ce genre de confrontation à la maison, on sait le poids que peut avoir un but encaissé. Maintenant, effectivement, ce que je regrette, c'est les deux situations de la première mi-temps où j'aurais dû convertir au moins une des deux. Voilà, après, en deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus tactique, un peu plus fermé. Les deux équipes ont bien défendu. Après, sur la deuxième mi-temps, rien à dire, c'était un combat, c'était une bataille tactique, avec un arbitre qui a laissé beaucoup, beaucoup jouer, ne sanctionnant pas, peut-être même des deux côtés, de nombreuses fautes. C'est un match solide, un match athlétique, et en ça, je suis content, parce que les garçons ont vraiment bien répondu présent.
Ludovic Batelli, sélectionneur des Fenech locaux, au micro d'Amin Birouk. Alors Amin, tout va se jouer finalement au match retour et en croire le coach d'Algérie, ça peut basculer dans un camp comme dans l'autre.
Oui, 0-0 est un résultat qui ne compromet nullement les chances de l'équipe algérienne, qui a été rassemblée à la toute dernière minute lundi dernier. Elle ne connaissait pas le groupe qu'allait amener Ludovic Batelli pour cette confrontation. Les Algériens avaient moins de repères que les Marocains qui avaient disputé 2 rencontres amicales et qui possédaient l'ossature de l'équipe qui avait remporté le Chan il y a 1 an et demi au Maroc. Visiblement, les Marocains pensaient beaucoup plus à défendre qu'à attaquer. C'est un peu la mentalité de leur entraîneur qui a cherché à jouer de manière très prudente. L'ère de jeu ne permettait pas de développer un football chatoyant, mais on a vu deux rencontres différentes. Une première partie où l'équipe algérienne a cherché à prendre l'ascendant. Visiblement, elle s'est créée deux occasions en début de rencontre. Et puis, elle s'est repliée, laissant l'initiative aux Marocains qui n'ont pas été capables d'accélérer, qui ont manqué de créativité, notamment lors des 30 dernières minutes, lorsqu'ils avaient la possession du ballon, mais c'était une possession stérile. Visiblement, tout est à refaire. Tout se déroulera, donc, tout se jouera au match retour au Maroc dans moins d'un mois. Et il va falloir quand même prendre en considération que le but à l'extérieur va rentrer en ligne de compte et qu'à ce petit jeu, si les Algériens pouvaient marquer ou arriver à marquer face aux tenants du titre, cela pousserait les Marocains dans leur dernier retranchement parce qu'ils seraient obligés de marquer deux buts pour pouvoir se qualifier, défendre leur trophée acquis il y a un an et demi à Casablanca. Donc tout est à faire dans cette compétition qui n'intéresse nullement les Marocains dans la mesure où ils sont passés à côté de la dernière CAN et visiblement l'opinion publique est en train de penser ses plaies après la déception égyptienne et ne semble nullement enchanté à l'idée de devoir disputer une nouvelle fois le Chan, que ce soit au Cameroun ou ailleurs.
Mais il faut bien disputer ce Chan-là, surtout que le Maroc est champion en titre. Toujours dans le Nord, coup de victoire de la Tunisie 1-0 face à la Libye. Au centre, la République démocratique du Congo s'est imposée à Bangui 2-0 devant la Centrafrique. Alors Thierry nous rejoint depuis New York, ici donc aux États-Unis. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Alors là, on va dire, c'est une nette avance pour les Léopards locaux.
Une nette et rassurante avance pour les Léopards de la République démocratique du Congo, surtout qu'il y a eu changement de régime. Rappelez-vous, Florent Ibenge est en partie depuis deux ans maintenant. Mouini Zaïra n'a pas pu qualifier les Léopards pour le dernier Chan qui s'est joué au Maroc. Là, c'est Christian Saint-Guibiémé, le directeur technique national, à qui a été confiée la sélection A, mais également la sélection A prime, qui a pris les commandes de l'équipe et qui est parti sur un faux pas la semaine dernière en match amical international. Les Léopards locaux de la RDC, vainqueurs de deux Chan, faut pas l'oublier, en 2009 en Côte d'Ivoire, puis en 2016 au Rwanda, se sont inclinés à domicile au Stade des Martyrs face aux Amavubi du Rwanda, justement, et ce qui a inquiété un tout petit peu le public congolais. Donc c'était une belle revanche pour lui. Il s'est bien servi de cette défaite à la maison en amical face aux Rwandais pour aller mieux presser en Centrafrique et rassurer les Léopards de la République démocratique du Congo qui sont à un pas d'une qualification qu'ils attendent parce qu'ils avaient manqué la précédente édition. Souvenez-vous, en 2017, éliminé par les Congolais d'en face. Donc c'est une très belle victoire avec une jeune équipe qui arrive. Christian Saint-Guibiémé a quasiment fait table rase. Il a pris des jeunes, ceux qu'il a eu à côtoyer, on va dire, ceux qu'il avait déjà encadrés chez les U23 qui pour la plupart évoluent chez V-Club, chez Mazembe, comme chez Derrick Club, Motema-Pembe, les grands clubs de la République démocratique du Congo. Et c'est bien parti pour les Léopards de la RDC qui n'auront plus qu'à confirmer à domicile au terme d'une prestation bien maîtrisée à Bangui.
La Guinée équatoriale a été accrochée à domicile par le Congo, deux buts partout. Les Crans de l'Ouganda ont fait un grand pas vers la phase finale suite à leur succès 3-0 au Burundi. Victoire également à l'extérieur du Rwanda 1-0 en Éthiopie, du Soudan, Tanzanie. Et puis au sud, Madagascar a fait l'essentiel devant la Namibie 1-0. Même score en faveur de la Zambie du côté de l'Iswatini. Et enfin, le Zimbabwe s'est imposé 3-1 devant le Lesotho. Les matchs retour se disputeront durant le week-end du 18 au 20 octobre. À l'issue de ces matchs retour, on connaîtra tous les qualifiés pour la phase finale du Chan 2020 prévue au Cameroun. Le Cameroun, justement, qui a un nouveau sélectionneur chez les A, le Portugais Antonio Conceição da Silva Oliveira, a été nommé sélectionneur des Lions Indomptables. Le technicien portugais succède ainsi à Clarence Seedorf, le néerlandais, remercié après la CAN 2019. Alors, Jules, finalement, le Cameroun n'a pas suivi la tendance actuelle qui semble faire place aux entraîneurs locaux sur le continent.
Bien sûr, depuis Jean-Paul Akono, c'est ce qu'on souhaite. Le Cameroun n'a pas suivi cette voie et a préféré peut-être faire confiance à un expatrié européen pour la bonne raison qu'il y aura peut-être un peu moins de pression sur lui, il sera un peu plus indépendant, et c'est ce qu'on dit souvent au Cameroun. Mais que ce soit un Portugais, quand on connaît le style de football portugais, C'est peut-être une bonne nouvelle dans la mesure où le dernier qui avait coché le Cameroun lors de la CAN ou avant la CAN 2006 avait beaucoup apporté du côté de la cohésion, du jeu technique et rapide. Et les Camerounais avaient joué un football qu'ils n'ont pas souvent l'habitude de jouer, mais ça donnait des résultats. On espère donc que la cohésion sera également au rendez-vous, la vitesse également. Mais en tout cas, attendons de voir, on verra ce dont il est capable sur le terrain.
Le technicien portugais sera secondé, entre autres, par deux anciens internationaux, François Omam Biyik comme principal adjoint et Jacques-Célestin Songo en charge des gardiens de but. C'est la première fois que Tony Conceição, c'est comme ça qu'on l'appelle, va entraîner une sélection. Auparavant, il avait essentiellement coaché dans son pays et en Roumanie. Alors, Élisée, le pari est quand même risqué pour le Cameroun qui voudrait gagner sa CAN 2021 à domicile.
Bien évidemment, puisque déjà, on se rappelle qu'il y avait déjà un Portugais, Arthur Jorge, qui a gardé le Cameroun. On a vu un peu les prestations. Maintenant, du côté du Cameroun, ça remonte déjà, puisque Jean-Paul Akono, le seul entraîneur local qui a permis aux Camerounais de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2000, on se rappelle, du côté de Sydney, bien pour selon lui, c'est un manque de respect à l'endroit des entraîneurs locaux, puisque pour lui, les Camerounais ont le talent. Ils ont le talent pour entraîner cette sélection camerounaise, puisque le football camerounais, c'est pas connu de tous. Et puis, ces Camerounais peuvent l'amener très loin. Ça fait déjà très longtemps que le Cameroun n'a pas une stabilité au niveau de l'entraîneur à la tête des Lions. Les Lions incontables, voilà, j'y arrive finalement. Donc, il faut dire que c'est peut-être une bonne nouvelle, puisque Jules l'a déjà dit. Attendons de voir, puisque. Les prochaines sorties nous édifieront, puisque déjà ça va être un peu difficile. L'après Sidor, ça va être un peu compliqué, mais on attend de voir si ce Portugais pourra mener très loin cette équipe camerounaise qui veut à tout prix gagner sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile et ça passe déjà par le championnat des Nations, même si ce ne sera pas lui qui sera à la tête des A-Prime.
On connaîtra tout à l'heure les lauréats des prix FIFA de Best. La cérémonie de récompense des meilleurs joueurs a lieu ce soir à Milan et ça va commencer à 19h30 temps universel et donc à la fin de cette émission. Chez les hommes, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk sont les trois finalistes. Le trio de finalistes est le même, vous l'avez remarqué, que celui du prix du joueur UEFA de l'année qui a été attribué au défenseur néerlandais de Liverpool, van Dijk, vainqueur de la Ligue des Champions avec son club. Alors, Amdine, on en parlait déjà la fois dernière, les Africains Sadio Mané et Mohamed Salah sont hors course pour ce prix. Van Dijk fait-il toujours figure de grand favori comme pour le prix de joueur UEFA de l'année?
Tout à fait. Van Dijk est le grand favori et je pense qu'il va le remporter. D'ailleurs, la première nouvelle est tombée puisque son entraîneur Klopp a été élu meilleur entraîneur de la saison devant Pep Guardiola et Pochettino. Cela quand même montre l'exploit que l'équipe de Liverpool a réalisé cette année en gagnant la Ligue européenne des champions. On s'étonne encore de ne pas voir Sadio Mané et Mohamed Salah, mais c'est comme ça. Pour le Ballon d'Or UEFA, on pouvait comprendre parce qu'on ne prend pas en compte les autres compétitions. Parce que le Ballon d'Or UEFA, c'est les compétitions européennes. Mais pour le Ballon d'Or FIFA, The Best, c'est toutes les compétitions. Et si on regarde toutes les compétitions, Sadio Mané a tiré son épingle du jeu parce que c'est grâce à Sadio Mané, que le Sénégal a quand même joué sa deuxième finale de Coupe d'Afrique de l'histoire. Donc on devait prendre ça en compte. Mais bon, comme le vin est tiré, il faut le boire, Yacouba. On va attendre. Mais c'est Van Dijk qui sera élu Ballon d'Or, ça c'est sûr. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo n'a même pas effectué le déplacement. Il n'y a que Van Dijk et Messi qui sont présents.
Merci, Amdine. Alors, Thierry, un Africain peut-être, cette fois-ci, dans le 11 pro, en guise de consolation, les débats qu'a suscité l'absence, bien sûr, de Mané dans le trio final, vu tout cela. Il y a Sadio Mané, il y a Mohamed Salah et il y a l'autre Sénégalais, Kalidou Koulibaly, en lice pour le 11 pro de la FIFA. Thierry. Et donc, on va essayer de retrouver Thierry Kamboundi. Et je vais me tourner vers Jules. Alors, Jules, je le disais, peut-être hein, une consolation, une sorte de consolation, même si ça ne met pas fin à tous les débats là, avec l'absence de Mané et de Salah dans le trio final. Finalement, on a Kalidou Koulibaly, on a Sadio Mané et on a Mohamed Salah en lice pour le 11 pro de la FIFA. Est-ce que ça pourrait être une consolation de voir l'un des Africains intégrer ce 11-là?
Mais c'est une évidence, puisque depuis quelque temps, les Africains fournissent la matière première et les joueurs africains sont des joueurs de très haut niveau de qualité qui sont trahis le plus souvent par leur environnement local quand ils reviennent en équipe nationale. Mais à ce niveau, les trois joueurs, moi, je les mettrais très et sans hésiter dans le 11 de départ de la FIFA. Il n'y a rien à dire à tous ces postes-là. Ces joueurs sont valables et même moi, j'ai pensé à un joueur de l'ombre comme Matip qui aurait pu être aussi présent parce qu'il a joué un très grand rôle dans le redressement défensif de Liverpool.
Alors, Amdine le signalait tout à l'heure, la consécration de Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand de Liverpool, comme meilleur entraîneur en FIFA de l'année, devant Mauricio Pochettino, finaliste malheureux de la C1 avec Tottenham et Pep Guardiola, bien mérité.
Bien mérité, rien à dire par rapport à cette consécration, c'est le fruit d'un long travail de la part de Jürgen Klopp qui a réussi à construire une équipe, une véritable machine de guerre. Aujourd'hui Liverpool est invaincu dans le championnat anglais, elle a réussi un super parcours en Champions League ponctué d'un sixième sacre, un sacre que les supporters des Reds attendaient depuis l'année 2005. Il a su construire sur une base avec trois rampes de lancement que sont Firmino, Salah et Mané, mais derrière il y a des travailleurs de l'ombre comme Fabinho, comme Jordan Anderson, comme les deux latéraux, Alexandre Arnold et Robertson. Aujourd'hui, quand on se rend compte de l'effet de la remontada face au Barça, quand on se rend compte de la façon avec laquelle l'équipe a géré, que ce soit son match de Ligue des Champions finale contre Tottenham ou son match de Supercoupe, on se rend compte qu'aujourd'hui, Liverpool fait partie du haut du pavé et c'est grâce à un homme qui a su reconstruire pièce par pièce cette machine de guerre. Il s'appelle Jürgen Klopp, il est allemand, il a réussi à changer les mentalités dans ce club et aujourd'hui, c'est une consécration bien méritée.
Alors Amine, je reste avec vous. Avant hein, ce prix de FIFA de baisse, il y a le Ballon d'Or France Football qui existe depuis très longtemps. L'année passée, au niveau de ce Ballon d'Or France Football, là, il y a eu des innovations. Il y a eu le prix Copa du meilleur jeune joueur. Cette année, il y a eu aussi le Ballon d'Or féminin attribué pour la première fois l'année dernière. Et cette année, il y a le prix Yachine qui va récompenser le meilleur gardien. Pourquoi toutes ces innovations constantes hein, du magazine France Football, organisateur de l'événement?
Tout d'abord, c'est une réhabilitation du poste de gardien de but parce que les gardiens de but sont un peu le parent pauvre de ces prix ou de ces consécrations parce qu'à part les Viachines en 63, personne n'a gagné le ballon d'or de France Football ni le prix de Best. Et aujourd'hui, il y a une concurrence entre la FIFA et le groupe qui gère le prix du ballon d'or. On se rappelle qu'ils avaient fusionné pendant quelques années et que cela avait donné lieu à des galas fastueux. Aujourd'hui, on se rencontre du côté du groupe Amaury Press qu'il va falloir innover, qu'il va falloir changer car la machine de guerre de la FIFA et le prix de baisse pourraient à un moment ou à un autre ternir la réputation du ballon d'or de France Football. Les puristes se souviennent du ballon d'or comme de la consécration, comme le Graal, mais aujourd'hui il va falloir changer et impliquer d'autres paramètres, donner d'autres prix, essayer de concurrencer au niveau du glamour, au niveau des cérémonies, des récompenses, de façon à ce que ce prix qui a été octroyé pour la première fois en 1957 ne tombe pas dans l'oubli.
Merci bien, Amine Birouko. Alors, Amdine, on va parler cette fois-ci de handball avec vous. Il s'agit du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les éliminatoires se jouent du 26 au 29 septembre prochain, cette semaine donc, à Dakar.
Tout à fait, Yacouba, le tournoi féminin qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est prévu au Sénégal. C'est du 26 au 29 et ce tournoi va regrouper les quatre meilleures nations du continent en handball féminin. Il s'agit quand même du champion en titre l'Angola, du vice-champion le Sénégal et des deux demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations tenue en Angola. En l'occurrence, c'est la République démocratique du Congo et le Cameroun. Les rencontres se joueront au Palais des Sports de Dakar Arena, classe tout au niveau de Djamnyado. Le Sénégal qui organise tentera quand même de réussir non seulement le pari de l'organisation, mais également de la participation, parce que le Sénégal est en quête de l'unique ticket qualificatif. Pour réussir cette ambition, il faudra quand même battre toutes les équipes, ce qui ne sera pas facile, car l'Angola est quand même l'équipe à battre. Si on regarde son palmarès élogieux, hein, l'Angola ne laisse que des miettes à ses adversaires avec 13 médailles d'or, tenez-vous bien, en 20 campagnes Yacouba, 14 participations en Coupe du Monde et 6 participations aux Jeux Olympiques. Donc l'Angola va partir avec la faveur des pronostics Yacouba, mais le Sénégal tentera de créer la surprise.
Merci bien, Amdine Sy, depuis Dakar. On va dire également merci à Amine Birouko qui était en direct depuis Casablanca, Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon, Élisée Mkwatine depuis Boïcon au Bénin, Thierry Kamboundi, notre correspondant à Kinshasa, était avec nous en direct de New York, donc ici aux États-Unis. Sporama qui s'achève à la réalisation, Joselle Mauricin, RDP Ali, devant ce micro Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine.